Bonsoir, merci à M. Herzog qui a eu l'amabilité de bien vouloir présenter la conférence. Laïlou Nishmat Refaela Flora Badevoa Simcha Shayom Yom Pekidata. Le sujet de notre étude ce soir sera l'actualité du chemin d'Abraham. Je vais essayer de dire les choses de la manière la plus simple possible. J'espère ne pas vous ennuyer. Et il serait donc éventuellement utile si pendant le cours de notre étude, ceux qui veulent poser des questions le fassent, ce n'est pas une obligation. Et on laissera également un temps à la fin pour des questions, mais même pendant le temps de l'étude, cela est bienvenu. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une critique du judaïsme. La critique a été formulée, une critique violente, qui a été formulée par un des grands philosophes européens, Henri Bergson, qui lui était juif d'origine, mais qui était de culture extrêmement chrétienne, pourrait-on dire, et de la philosophie générale. Il ne connaissait pas bien, en fait, son judaïsme. La critique d'Henri Bergson consiste à dire que le judaïsme, c'est un brouillon. C'est un brouillon qui permet de passer à l'écrit bien net le christianisme. C'est-à-dire, le Dieu d'Israël est un Dieu qui s'occupe de son peuple, qui n'est préoccupé que de son peuple, et qui abandonne le reste de l'humanité. Tandis que le christianisme, selon Henri Bergson, aurait été la réussite du judaïsme, puisque on est passé d'un Dieu national à un Dieu universel qui se préoccupe de l'ensemble de l'humanité. Alors, pourquoi est-ce que je vous amène cette critique, qui est évidemment très mal fondée, qui en fait est fausse? C'est parce qu'elle est couramment entendue. C'est souvent exprimé de cette manière. On dit finalement, les Juifs ne s'occupent que d'eux-mêmes. C'est un des arguments fondamentaux de l'antisémitisme. Et ce que je voudrais, c'est étudier avec vous tout d'abord ce que disent les textes à ce propos. Remarquez une chose très intéressante et très importante. Tout d'abord, c'est que l'histoire d'Israël dans la Torah ne commence pas au début. On commence tout d'abord par la création du monde. Et puis après nous avoir parlé de la création du monde, on nous parle de la création de l'humanité. Et puis après qu'on nous parle de la création de l'humanité, on parle des problèmes de l'humanité. La dispersion, la division. Et c'est sur cet arrière-plan-là qu'apparaît Abraham. Ça vient donc dire que l'élection d'Abraham Avinu est là pour résoudre le problème de l'ensemble des hommes. Selon la Torah, il y a une thèse que défend la Torah, qui nous est enseignée par Akadosh Baruch Hu, qui nous dit comment est-ce que cela peut être réalisé ? Mais il faut bien comprendre que c'est ça l'arrière-plan de l'élection d'Abraham. De plus, quand on voit, lorsqu'Abraham est élu, lorsqu'il apparaît sur la scène de l'histoire, on lui dit d'abandonner tout le monde, « Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, la maison de ton père, va là où je t'indiquerai, et je ferai de toi une grande nation. » Mais pourquoi une grande nation ? Eh bien, la finalité, c'est « Venivrechu becha kol mishperot ha'adama, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Voilà, c'est donc que dès le départ, l'élection d'Israël est considérée comme universelle, contrairement à l'idée que l'universalisme serait un produit tardif du judaïsme. On voit qu'il est antérieur même à la fondation du peuple juif. C'est-à-dire, dès le départ, quand HaKadosh Baruch Hu intime l'ordre à Abraham de fonder une nation, eh bien, cette nation a, dès le départ, pour vocation de s'occuper de tout le monde. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Parce que, comme l'a si bien dit M. Herzog tout à l'heure, Abraham, qui veut s'occuper de tout le monde, se met à part de tout le monde. On dit « Kol ha'olam me'ever echad » Abraham et Verechad, le monde entier est d'un côté et Abraham est de l'autre côté. Alors, ça veut dire quoi? C'est une manière de se mettre à l'écart des autres. Imaginez par exemple que quelqu'un entre dans une salle dans laquelle il y a une centaine de personnes. Et ces centaines de personnes sont en train de manger un kidouche. Vous savez, ils prennent un peu de tout comme ça. Il y a des small talks, très sympathiques. La personne entre dans la salle et dit « Moi et vous ». C'est tout ce qu'il a dit. Dire une chose pareille, moi et vous, ça attire immédiatement le rejet ou la sympathie. Mais il ne peut plus y avoir d'indifférence. C'est-à-dire, le fait même qu'Abraham se soit posé comme par rapport à l'ensemble du monde, ça va créer des courants d'énergie, négatives ou positives, mais en tout cas, c'est ça qui va se passer. Et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que ça se passe de cette manière. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de faire ce qu'on appelle du cosmopolitisme, c'est-à-dire d'effacer les différences entre les nations, entre les hommes? Nous sommes tous frères, nous sommes tous la même chose. Pourquoi faut-il fonder une nation qui soit séparée du reste des nations pour finalement amener la bénédiction au monde entier? La question se pose. C'est une question qu'on ne peut pas éluder de manière si simple. Et là, je voudrais faire quelques petites remarques qui vont nous aider à comprendre. Mais j'ai le droit, en tant que conférencier, de boire un peu. Un conférencier ne peut pas ne pas boire. Ça fait partie de la chose. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe avant l'apparition d'Abraham? Selon le récit de la Torah, eh bien, la Torah nous raconte qu'il y a une sorte d'éclatement de l'identité humaine. Alors qu'il y avait une humanité uniforme, et qu'il y a une tentative, ce qu'on appelle la tour de Babel, d'uniformiser les hommes. Finalement, cette tentative a échoué, Baruch HaShem, et l'humanité a éclaté en 70 manières différentes d'être homme. Mais il se pose un problème. C'est que chaque individu sur Terre, sinon chaque nation sur Terre, pardon, représente une des manières d'être homme et se met en opposition avec les autres manières d'être homme. Et là, il y a un petit problème. C'est qu'on est entre deux enfers. Il y a un enfer possible, c'est l'enfer de l'uniformité. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil, c'est terrible. Et il y a un texte dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, assez surprenant, qui raconte comment se passait la tour de Babel, la construction de la tour de Babel. Eh bien, le Midrash nous dit, c'est une imagination, mais c'est intéressant, que lorsque un homme montait sur la tour et qu'il tombait, personne n'y faisait attention. Mais si une brique tombait, tout le monde prenait le deuil et se demandait quand est-ce qu'on va en mettre une autre à la place. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un projet commun à tous les hommes qui uniformise tout le monde, l'individu n'a plus de sens. On tombe dans un totalitarisme de l'uniforme et donc on est dans un monde infernal. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a voulu empêcher cela, qu'il y a eu un éclatement de l'identité humaine. Mais cet éclatement a une conséquence infernale inverse. C'est qu'il y a maintenant la guerre entre les hommes. Chacun essaye d'imposer sa manière d'être aux autres. C'est ce qu'on appelle le colonialisme. Il y a aujourd'hui, par exemple, un impérialisme culturel bien connu. C'est une idée développée aux États-Unis que tout homme sur Terre est américain, soit qu'il le sache, soit qu'il l'ignore. Mais un jour, il le saura. Il le saura quand tout le monde boira du Coca-Cola et mangera des hamburgers. Et donc, il y a ici un petit problème, c'est le refus de la légitimité de l'autre identité. Alors, on est entre deux enfers, deux Gehinam, si vous voulez. Soit un enfer d'uniformité, soit un enfer d'éclatement et de guerre. Alors, quelle serait la solution? La Torah nous dit qu'il y a un projet qui consiste à créer une 71e identité. « Ve'esra l'egoy gadol, je ferai de toi une grande nation. » Cette nation doit être une sorte de foyer sur lequel se focalisent toutes les identités humaines. C'est-à-dire que si on disait que chaque peuple a une couleur, la couleur blanche, rouge, bleue, etc., quelle serait la couleur d'Abraham ou d'Israël? Eh bien, ça serait une couleur transparente, dans laquelle tout pourrait se combiner, tout pourrait se mélanger. Vous avez qu'à, par exemple, faire un effort. Vous prenez toutes les mauvaises blagues sur les sous-marins. Vous savez qu'il y a toujours des blagues sur des sous-marins. Alors, il y a un sous-marin dans lequel il y a un Français, un Anglais, un Suisse et un Belge, etc. D'accord? Et puis, on raconte des vannes stupides. Et puis, vous prenez l'intégrale de toutes les blagues possibles, c'est-à-dire vous mettez tous les peuples ensemble et vous mélangez. Ça vous donne Israël. En tout cas, c'est ça la vocation dont il est question dans le texte de la Torah, c'est de créer une sorte de foyer dans lequel tout le monde pourrait se reconnaître sans que ce foyer s'impose aux autres. Et donc, il y a ici la préservation de la diversité des identités humaines, mais d'autre part, il y a un facteur d'unité. Pour employer des mots en hébreu, c'est la différence entre Ahdout, qui veut dire unité, et Achidout, qui veut dire uniformité. L'uniformité est refusée par le créateur du monde, par le créateur des hommes, mais il faut qu'il y ait l'unité entre les différents. Et cette unité, c'est la vocation d'Israël. Et cette unité se réalise au niveau d'une nation et pas au niveau des individus. Et là, je voudrais rentrer dans un autre détail. Si quelque chose n'est pas clair, il faut le dire maintenant, pour une raison très simple. C'est que la conférence va devenir de plus en plus compliquée. Et que si quelque chose n'est pas clair maintenant, il n'y a aucun espoir que la suite de la conférence éclaircisse le sujet. Donc, je vais peut-être un peu trop vite, parce que les idées chez moi sont déjà construites, mais je ne sais pas quelle est la mesure de votre réceptivité. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faut le dire maintenant, poser la question, l'opposition, sauf la lapidation. Si tout est clair, alors je pense que tout va bien. Simplement, vous avez une interrogation écrite à la fin de la conférence, à laquelle, qui sera également notée. Et donc, je reprends ici mon sujet. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de créer ? Est-ce qu'il lui demande de fonder une religion ? La réponse est non. Si déjà Abraham avait déjà sa religion avant la révélation, il s'occupait de convertir le monde entier à quoi ? Ben, au monothéisme. C'est-à-dire, si on demandait à Abraham, à ce moment de sa vie, avant la révélation, « Toi, Abraham, qu'est-ce que tu veux faire ?» Eh bien, il lui répondrait, « Je veux faire une religion cosmopolite destinée au monde entier et qui enseigne le monothéisme. » Ah, très intéressant. Vous en connaissez, vous, dans notre monde, une religion de ce genre ? Si, il y en a une. Une religion qui veut enseigner l'unité de Dieu à tous les hommes. L'islam, tout simplement. C'est-à-dire, on peut dire que d'une certaine manière, ce qu'Abraham voulait réaliser avant la révélation ressemble à ce que l'islam, en tout cas, prétend être. Je ne dis pas que c'est vraiment ce que l'islam est, parce qu'il faudrait analyser ce qui se cache derrière l'islam, mais en tout cas, c'est ça qu'Abraham pensait faire. Et puis, un beau jour, Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham et il lui dit, « Mon bien-aimé, je vais te dire quelque chose. J'ai pour toi un nouveau projet. » Tu vas abandonner l'ancien projet et au lieu de t'occuper d'une religion, tu vas fonder une nation. C'est-à-dire que tu vas fonder une nation, je m'explique, c'est un peuple sur une terre avec souveraineté. Tu vas donc fonder une entité politique. C'est un gros mot. Aujourd'hui, on n'aime pas parler de politique, surtout dans une synagogue, vous vous rendez compte. Mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, il faut que tu ne te désespères pas de sanctifier la collectivité humaine dans ce qu'elle a de plus élaboré, c'est-à-dire le politique. Et vous comprenez que ça n'a pas été facile du tout pour Abraham. Si on avait le temps, mais nous n'avons pas le temps, donc je vous en fais grâce, nous pourrions analyser le texte de la Torah et de voir qu'Abraham a été réticent par rapport à ce projet. Il s'est demandé, est-ce que c'est vrai que le politique est sanctifiable ? Ça fait partie d'énormément de problèmes que nous avons, par exemple, avec la morale chrétienne. La morale chrétienne a décidé que le politique n'était pas sanctifiable. Le fondateur du christianisme a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que ce qui est à César n'appartient pas à Dieu, ça ne le regarde pas, lui, il s'occupe des âmes. Mais, dans le projet d'Israël, ce projet concerne les nations, les collectivités humaines, le politique, il est sanctifiable. Alors, évidemment, il y a énormément de malentendus autour de ces notions-là, et je suis persuadé que quand je vous dis qu'il s'agit de sanctifier le politique, je suis tout de suite mal compris, et c'est de ma faute. Parce que je n'explique pas ce que ça veut dire. Mais, parce que, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut donc mettre une kippa sur la Knesset, par exemple ? D'accord ? C'est une question qui se pose. Je ne veux pas y répondre. Je veux simplement laisser le malentendu, pour l'instant. Mais, en tout cas, je vais peut-être, pour quand même éclaircir un peu, je vais amener un exemple que j'ai l'habitude d'amener à mes élèves. Il y a un livre écrit par un auteur français qui s'appelait Victor Hugo, vous connaissez certainement. Il a écrit un livre, Les Misérables. Très beau livre. Mais quelle est la thèse que défend Victor Hugo dans Les Misérables ? Eh bien, il dit tout simplement, le monde est pourri, Ça va très mal parce qu'il y a de la politique. Mais la charité individuelle peut adoucir la vie. Voilà, c'est ça. Si vous lisez bien le livre, c'est ça qu'il y a écrit là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, il y a un désespoir profond du monde chrétien de sanctifier la cité, de la moraliser. Mais la vie individuelle peut être morale. Tandis que chez Abraham Avinu, Dieu lui dit « Vesra les goy, Gadol, tu vas devenir une grande nation. » Et cette nation va être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mais comment ? Alors, une petite remarque grammaticale. Vous connaissez tous l'hébreu, évidemment. Et vous connaissez donc également les traductions en français du texte hébreu. Et donc, comme tout le monde, nous nous trompons sur la véritable signification des mots hébraïques. Le mot « venivrechou » que l'on traduit « seront bénis ».« Venivrechou becha kol mishpachot adama »« Par toi seront bénis toutes les nations de la terre » en hébreu ne veut pas dire « seront bénis ». En hébreu, pour dire « seront bénis », on dit « vehitbarechou ». Mais si on dit « venivrechou », ça veut dire autre chose. Ça vient du verbe hébraïque « leavrich » qui veut dire faire du marcottage. C'est du marcottage. Ça veut donc dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, en toi seront marcottées toutes les nations de la terre. N'est-ce pas ? C'est bien clair, n'est-ce pas ? Ah, ben heureusement. Je savais très bien que j'employais un terme français qui n'est pas connu de tout le monde, et j'ai fait ça exprès pour que les gens disent, pour pouvoir vérifier si les gens m'écoutent sans poser des questions, même s'ils n'ont pas compris ou pas. D'accord ? Le mot marcoté en français, mais vous pouvez demander à tous les autres parce que tous les autres ont compris, ils n'ont pas posé la question. Bon, le mot marcoté en français, c'est quelque chose qui est tiré de la viticulture, la culture des vignobles. C'est absolument vignoble. Oui, il y a des viticulteurs ici, certainement. Quand on fait de la vigne, alors il y a ce qu'on appelle le cep. Il y a des sarments. Les sarments sont les branches un peu flexibles comme ça. On prend une branche que l'on courbe et à qui on donne la forme d'un genou, les avrir du mot berer. Et on enterre le bout du sarment dans la terre et ça donne des racines. Et de là va croître une nouvelle vigne. Donc, quand Akadosh Baruch Hu dit « Venivrechou becha kol mishperot ha'adama », ça veut dire que les nations sont comparées à des ceps de vigne et Abraham est comparé au sol. Et que dans ce sol, on va mélanger ensemble tous les sarments de vigne pour en faire une nouvelle vigne. Ça veut donc dire qu'Abraham est préposé à la vocation de l'unité des hommes. Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'il devient la 71e nation qui va donner l'exemple aux autres nations. Alors, tout s'explique maintenant quand on voit les visions de futur, les visions messianiques des prophètes. Quand, par exemple, le prophète Zecharia nous parle de la fin de l'aboutissement de l'histoire, Aharit HaYamim, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, et c'est une haftara, donc vous êtes bien obligés de connaître le texte, parce qu'on ne s'endort pas pendant la haftara. Vous savez pourquoi on ne s'endort pas pendant la haftara ? Parce que la musique de la haftara est belle. Et donc, le prophète nous dit Venilvu goyim rabim el Hashem bayomahu vehayuli le'am. De nombreuses nations, goyim dans le texte biblique veut dire non pas des non-juifs, ça veut dire des nations entières. Venilvu goyim rabim el Hashem bayomahu. Des nations entières s'associeront à Dieu en ce jour vehayuli le'am et seront pour moi un peuple. Vous entendez ? Pour des oreilles juives, est-ce que ça veut dire une chose pareille ? Nous autres, les Juifs, nous savons que nous sommes le peuple de Dieu. Ça nous donne beaucoup de satisfaction de se savoir le peuple de Dieu avec toutes les souffrances que ça implique. Et puis, le prophète nous dit, viendra un jour où il y aura encore d'autres peuples de Dieu. C'est un prophète juif, ça ? Oui, vous en faites pas, il y a une suite. Veshachanti betocher, et je résiderai en toi. Ah bon, ça va, ouf, nous sommes sauvés. Ça veut dire que viendra un temps où nous apprendrons au goyim non pas de la morale individuelle, mais nous leur apprendrons à être au niveau collectif des peuples de Dieu. Il y a par exemple un exemple moderne de cela, il y a une secte au Japon qu'on appelle les Makoya, dont vous avez certainement entendu parler. Les Makoya sont des amis d'Israël. Ils sont chrétiens d'ailleurs, pour tout vous dire, hélas. Et il demande aux Juifs de leur enseigner le nécessaire pour que le Japon soit sanctifié. Pas le Japonais un tel, mais le Japon en tant qu'entité nationale prenne l'exemple d'Israël. Et si vous voulez, d'après le prophète, c'est un phénomène qui fait partie du projet d'Israël. Alors, ça a l'air un peu grandiose ce que je vous dis là, et on peut se demander si c'est vrai ce qu'il dit le Rav Cherki là maintenant, pas Cherki mais Cherki, c'est presque la même chose. Si c'est vrai ce que le rabbin qui est là vous dit, alors comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler jusqu'à aujourd'hui ? C'est-à-dire, pourquoi ça ne fait pas partie du programme des études juives d'envoyer de temps en temps un rabbin en Norvège, un rabbin au Kamtchatka et un rabbin en Patagonie pour expliquer comment sanctifier les nations ? Ben, tout simplement, la réponse est très simple. C'est que pendant 2000 ans, c'était impossible. Pendant 2000 ans, nous étions dans une politique de survie. Il y avait des persécutions, il fallait bien vivre. Alors, il fallait sauvegarder la communauté d'Israël dans son intériorité. C'est la vie du ghetto. Et c'est nous avons réussi à faire des choses extraordinaires. Nous avons très bien vécu. Nous avons fait des petites ambassades d'Eretz Israël un peu partout, comme l'a dit M. Herzog tout à l'heure. Nous avons fait donc des synagogues. Et tout ça parce que nous étions dans l'attente de réaliser un jour le projet d'Abraham. Mais vient un temps dans l'histoire où ce projet cesse d'être une théorie, il devient actuel. Et ça fait partie donc du titre de la conférence que vous avez, à laquelle vous êtes conviés. Vous avez vu sur l'affiche « Actualité du message d'Abraham ». Et j'aimerais entrer un peu dans le détail. Mais tout d'abord, je voudrais analyser un phénomène que vous connaissez bien. C'est que dans le monde entier, on dit du mal de nous. Ce qu'on appelle la délégitimation de l'État d'Israël par les médias internationaux. Pardon. Et on peut se demander d'où ça vient. Alors, il est facile de dire, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est de dire les goyims sont des antisémites. C'est ce que j'ai dit. Hein ? Non, je ne distingue pas. Pour une raison très simple. C'est que dans le subconscient collectif des nations, l'État d'Israël, c'est le juif des nations. Alors, on peut essayer de faire des différences, de dire, oui, c'est parce qu'il y a une... Alors, ça, c'est la deuxième position qui consiste à dire, nous sommes un peu coupables, nous avons une politique très méchante, nous ne sommes pas bien envers les Palestiniens, et puis nous volons les robinets dans les hôtels, et etc. Alors, c'est un peu de notre faute. Et vous savez, on dit, pourquoi est-ce qu'on voulait importer de l'eau de Turquie ? Parce que les robinets sont déjà arrivés. Et donc, alors, on peut dire ça aussi. Mais à mon avis, c'est oublier qu'est-ce que représentent les symboles dans le subconscient collectif des gens. Et indépendamment des arguments que les gens présentent au niveau conscient, la conscience humaine agit par des symboles enfouis dans le subconscient collectif. Et il faut donc se demander qu'est-ce que représente l'État d'Israël pour la conscience universelle. Et là, je voudrais rentrer un peu dans le détail. Tout d'abord, faire une remarque à propos du monde occidental dans son ensemble. Le monde occidental, bien que laïque, est aujourd'hui chrétien. Il est chrétien, non pas de foi, pas parce qu'il ne va pas à l'Église, mais il est chrétien d'intuition. Je vais vous raconter, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Manitou, une fois, il y avait un homme politique français d'extrême gauche, anti-religieux, à tout point de vue, qui a dit à Manitou, vous savez, moi, je ne crois pas en toutes ces bêtises de l'Église. Je n'y crois pas du tout. Mais pourquoi vous l'avez crucifié ? C'est-à-dire, ça reste quelque part, sans parler des présupposés du monde des valeurs chrétiennes qui continuent. Et il faut bien comprendre une chose. L'irruption du peuple juif en tant qu'État au XXe siècle, en pleine modernité, c'est un scandale théologique. C'est quelque chose qui bouscule les modes de pensée classiques de la civilisation européenne et occidentale dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu, il s'est passé, il faut bien comprendre, en 1948, ce qui s'est passé, encore plus en 1967, il faut bien le comprendre, un événement biblique s'est produit en pleine modernité. C'est l'irruption de la Bible. n'est pas simplement qu'il y a quelques hommes persécutés par des Allemands en Europe qui ont cherché un refuge. Le discours officiel, c'est pas ça. Et alors on peut essayer de dire, non mais non, pas du tout, on a un problème de frontière. Vous savez, c'est comme des Luxembourgeois qui auraient un problème de frontière avec la Belgique. Alors on fait un comité international, on va s'arranger, il y aura des dédommagements pour tel, celui-là, on va déplacer sa chaumière, etc. Et finalement, ça va s'arranger, ça va se tasser. Alors si c'était que ça, ça ferait déjà 60 ans que le problème n'existerait plus. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de culturel. Il y a aujourd'hui un enjeu, il y a une sorte de guerre larvée autour d'une question fondamentale. Qui prend en main l'hégémonie de la culture universelle? Alors aujourd'hui, c'est encore l'Occident, avec les États-Unis à la tête. Il y a une tentative de l'islam de remplacer ça. Il faut le savoir. Le conflit n'est pas un conflit territorial, politique dans le sens restreint du terme. Il y a un conflit de civilisation. C'est la raison pour laquelle le conflit continue. Parce qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, de savoir qui est Abraham, qui est Israël. Et cette question reste. Alors vous savez que quand Herzl, Zichrono Livracha, était venu voir le pape pour lui demander son aide pour l'entreprise sioniste, le pape, qui était un bon chrétien, lui a répondu « Mais enfin, monsieur Herzl, je suis prêt à vous aider à faire de la charité pour les Juifs. Mais ce que vous me demandez de vous aider à rétablir un État en Palestine, c'est contraire à tout ce que, en quoi je crois. Et donc, je ne peux pas vous aider. » C'est-à-dire, maintenant, ce qui s'est passé, finalement, en 1948, cet État a été fondé. En 1967, cet État a prouvé qu'il était fort. Et alors, je vais vous dire un peu comment ça se passe. Je fais une analyse psychanalytique du subconscient des nations. Je me permets. Et on peut dire que ce qui se passe, c'est que les nations se disent, mais enfin, vous avez bousculé beaucoup de monde. Vous avez chamboulé toutes nos habitudes de pensée. Et vous êtes revenus. C'est donc que vous avez quelque chose à nous dire. Eh bien, nous attendons que vous le disiez. Eh bien, on ne le dit pas. On se tait. On se tait, alors on a deux sortes de réactions. Il y a une réaction religieuse qui consiste à dire « Nous sommes venus en Eretz Israël parce que nous voulons fonder des yeshivot et qu'on veut étudier tranquillement. » Première position. Alors, si c'est ça, des yeshivot, vous pouvez en faire en Suisse. Et l'autre position consiste à dire « Non, non, nous sommes en Eretz Israël parce que nous faisons partie de la civilisation occidentale. Nous en faisons partie. » Et donc, nous sommes le garant de la démocratie au Proche-Orient. Nous sommes le seul État démocratique et tout le reste. Eh bien, pour tout vous dire, ça sonne faux. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la Torah, qu'il n'y ait pas de yeshivot. Je suis d'accord pour qu'il y ait des yeshivot. Je suis tout à fait d'accord. J'encourage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de démocratie. Je suis tout à fait pour. Je suis démocrate. Mais est-ce que c'est ça notre message pour l'humanité? Vous savez qu'il y a un dépliant qui est distribué par le ministère de l'information israélien pour tout Israélien qui monte en avion. Un petit dépliant comme ça qu'on reçoit pour expliquer qu'est-ce que c'est que Israël à l'étranger. Parce qu'on se dit que peut-être on ne nous aime pas parce qu'on n'a pas compris qui nous sommes. Et alors, le ministère israélien vous explique que c'est très important d'expliquer que nous sommes en fait nous sommes à la pointe de la technologie, que nous avons inventé les tomates cherry, le disconki, que nous avons, comme tout le monde, des discothèques, que nous avons une ville superbe, Tel Aviv, dans laquelle on s'amuse bien, et que nous avons un grand centre touristique qui s'appelle Jérusalem. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va nous aimer. Il faut que les gens comprennent que nous ne marchons pas avec des chameaux, mais avec des voitures. Et puis, il faut également qu'on comprenne que nous avons quand même une légitimité historique. Et alors, il y a une liste de dates qui sont distribuées à l'Israélien moyen, qui doit apprendre des dates historiques pour savoir expliquer qui est Israël. Quelle est la première date, d'après vous? Non, un peu avant, quand même. Non, après. La déclaration Balfour, 1917. C'est comme ça que ça commence. Remarquez qu'on aurait très bien pu dire, si on ne veut pas parler de la Bible, dire que ça commence en 1897 avec le Congrès sioniste. Eh bien non. Le ministère israélien de l'information préfère dire qu'on commence par le moment où les goïms ont dit qu'on avait le droit à une terre. C'est-à-dire affirmer qu'on a une exigence, c'est déjà trop. Alors vous comprenez ici un petit problème. Il y a un problème de ce qu'on appelle en anglais self-confidence, confiance en soi. Et en fait, la vérité est, et on ne peut pas l'ignorer, c'est que nous représentons quelque chose dans la culture universelle et que nous avons quelque chose à dire. Alors, c'est quoi ce que nous avons à dire? Eh bien, il y a ce qu'on appelle en hébreu « Torat bene Noah », ou si vous voulez, le « noachisme » en français, « noachisme ». Le « noachisme » est un élément bien connu de la tradition d'Israël. Les sources dans le Talmud sont très claires. C'est bien établi, ce n'est pas une invention à moi. Les rabbins, de formation rabbinique, savent que ça existe. Il y a cette idée, et là je vais expliquer de quoi il s'agit, que la Torah a donné au monde deux religions distinctes. Une religion pour Israël, en tant que peuple prêtre, et une autre destinée aux nations, qui est ce qu'on appelle Torah Bnei Noach, le noachisme. Et c'est cet enseignement, avec tout ce qu'il contient de valeurs spirituelles, qui doit être dispensé à l'humanité. Cet enseignement existe dans les sources, mais ça a été très rarement mis en application. Il semblerait qu'à l'origine, on pourrait analyser les textes pour ça, mais je ne vais pas le faire dans une synagogue, que l'intention des premiers chrétiens était de faire cela. Si vous voulez, de diffuser pour le monde entier l'enseignement de la Torah destinée aux nations, sans la théologie de la substitution d'Israël. Et puis, bon, vous savez ce que c'est devenu. Il semblerait également, certaines études ont essayé de le prouver ces derniers temps, que c'était également l'intention de l'islam à l'origine. Et puis, vous savez ce que c'est devenu. Et puis, si on arrive plus proche de chez nous, je voudrais peut-être... je vais prendre l'exemple le plus connu. Il y avait, à la fin du XIXe siècle, un Français, du nom de Aimé Pallière, qui voulait au début se convertir au judaïsme, qui est allé voir un des grands maîtres du judaïsme à Livourne, en Italie, le rave Elie Ben Amozeg, pour lui demander de se convertir. Et le rave Eliyahu Ben Amozeg lui a dit « Ne te convertis pas, tu vas devenir le premier des Noachides à l'ère moderne. Et tu seras le fondateur de cette religion. » Finalement, c'était une catastrophe, ça a complètement échoué. On pourrait analyser la vie d'Aimé Pallière, de ce point de vue-là, ce que ça a pu devenir. Mais l'idée a été lancée, et il y a un livre très important du Rav Ben Amozeg, « Israël et l'humanité », qui traite justement de cette doctrine. Plus proche de notre temps, vous avez entendu parler certainement des efforts du rabbi de Lubavitch, qui consistaient à enseigner non seulement aux juifs leur mitzvot, mais également aux goïms leur mitzvot. Pour tout vous dire, c'est resté à une échelle extrêmement restreinte, mais il y a des efforts quand même touchants. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, par exemple, si vous vous promenez, n'ayez pas trop peur, à Shrem, la ville de Naplouse, en Samarie, qui est actuellement sous autorité palestinienne, il y a des affiches en arabe, dans toute la ville, avec la photo du rabbi de Lubavitch et la liste des commandements des Bnei Noach en arabe. Ces affiches ne sont pas touchées. Elles sont respectées. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a un phénomène sous-jacent à la conscience des nations qui est qu'Israël a quelque chose à dire. Et, alors, évidemment, le plus logique, ça serait non pas que des individus juifs parlent à des non-juifs, ça devrait se faire de nation à nation. Mais dans la réalité concrète de notre monde, La classe politique israélienne ne se sent pas encore en mesure de le faire, donc c'est pour ça que des gens simples, comme moi, s'occupent également, seulement, non, entre autres, des juifs, mais également des goïms. Il y a parmi les goïms une demande réelle de savoir ce que nous avons à dire. Et là, je peux vous raconter, mais ça prendrait beaucoup plus que le temps qui nous est imparti, une quantité assez incroyable de récits que j'ai pu vivre directement de non-juifs qui, spontanément, sans qu'on se soit adressé à eux, s'adressent à nous. C'est-à-dire, ce n'est pas un processus de prosélytisme ou de conversion ou de missionnarisme, c'est quelque chose qui se produit, que nous le voulions ou pas, et nous avons des membres des nations qui disent, voilà, ben, enseignez-nous ce que nous pouvons savoir. Et c'est assez surprenant de voir, vous savez, il y a des goïms qui me demandent, est-ce que je peux mettre une mezouza sur ma porte ou est-ce que c'est interdit, par exemple. Quelle est la prière que je peux réciter? Est-ce que j'ai le droit d'agiter un loulav, par exemple? Des choses de ce genre. C'est très sérieux, hein, ça se passe à une échelle assez intéressante. Nous sommes actuellement en contact avec une douzaine de communautés dans le monde qui ont commencé à faire ce travail, sans parler d'individus dispersés. Pour l'instant, sur notre site internet, nous avons des appels de 78 pays dans le monde qui sont intéressés par ce que nous faisons. Et donc, le phénomène commence à prendre de l'ampleur. Quelle sera son ampleur définitive? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, les choses commencent. Je voudrais peut-être rentrer un peu plus dans le détail de ce que la tradition nous dit à ce propos. Vous savez qu'il y a 7 commandements noachides. Il y en a 7. C'est pas énorme. 7 sur 613. 613. Nous avons 613 commandements dans la Torah, 248 qui sont des commandements positifs et 365 qui sont des commandements négatifs. Et puis, quand un goy vient, il dit « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Bon, on dit « Ben, vous savez, monsieur, vous en avez 7. »« Ah bon, c'est tout ?» Très bizarre. Hein, surtout quand on rentre dans le détail des 7, on se dit « Mais enfin, les 7, c'est vraiment faible. » Qu'est-ce que c'est que les 7 commandements noachides? Ben, je vais vous faire la liste. C'est tout simple. C'est l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction du blasphème, l'interdiction du vol, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de la débauche, l'interdiction de consommer de la chair d'un animal vivant et le devoir d'avoir des tribunaux. Voilà. Alors, vous avez remarqué que le mot « interdiction » est venu 6 fois. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait pas de contenu positif à la spiritualité des nations. Très bizarre, quand même. J'ai rencontré récemment un soldat israélien, non-juif, d'origine russe, qui m'a dit, voilà, je suis intéressé à être Ben Noach, être un Noachide. Et j'ai plusieurs questions, m'a-t-il dit. Tout d'abord, si j'ai bien compris, ce que vous me demandez, ce sont des choses de morale naturelle. C'est tout. Ben ça, je le fais déjà. C'est-à-dire, la plupart des goïms sont déjà fidèles à ces commandements-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire que les rabbins auraient un enseignement particulier pour les goïms, alors qu'en fait, ça fait partie de la morale universelle? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Autre question que m'a posée ce non-juif, c'est, est-ce que d'après toi, c'est mieux que j'habite en Israël ou en dehors d'Israël? Troisième question, c'est moi qui lui ai posée. Je lui ai dit, mais avec qui tu vas te marier? Il me dit, mais bien, avec une batte noire. J'ai une amie qui est comme moi. Souvent, ces bénés noirs sont un rempart contre l'assimilation. Très intéressant. Ils sont attachés au judaïsme et ne veulent pas être la source de l'assimilation. Ceux qui le veulent se convertissent au judaïsme. Ce n'est pas difficile, vous payez la taxe d'inscription au Beit Din, et puis vous commencez l'enfer. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est très simple. Vous payez, etc., vous vous inscrivez. Ah oui, mais vous n'avez pas de visa. Bon, en tout cas, bon, revenez le mois prochain. Le mois prochain, on dit où est votre dossier? Bah, votre dossier est passé à Ramat Gan. Le type va à Ramat Gan, la secrétaire est malade. Bah, c'est comme ça que ça commence. Enfin, finalement, après des efforts, il se convertit au judaïsme. Mais on peut faire plus simple. On peut tout simplement être Ben Noach. Alors, la question est effectivement une question importante. C'est quoi être Ben Noir? Là, je voudrais citer un enseignement de la Guémara dans le traité de Baba Kama, dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Baba Kama, page 38a. Dans le traité de Baba Kama, page 38a, les Chachamim nous disent une chose absolument incroyable. C'est que quand Dieu a vu que les nations ne respectaient pas les sept commandements noachides, il les a autorisés. Oui, ça voudrait dire qu'il n'est plus interdit de tuer, de voler, de la débauche. C'est ça que ça voudrait dire. Vous comprenez? Inouï ce que dit la Guémara. Comment? Dieu aurait autorisé les hommes à ne plus se comporter moralement? Immédiatement, le Talmud réagit en disant « Mais comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille ? Ça voudrait dire que le pécheur est récompensé ?» De plus, ce n'est même pas vrai. Parce qu'effectivement, on voit que chez les nations aussi, il y a ces éléments de morale. Alors la Guémara répond « Non, non, pas du tout. Cela veut dire qu'ils continuent à les faire, mais qu'ils ne sont pas récompensés comme quelqu'un qui accomplit un commandement, mais comme quelqu'un qui accomplit quelque chose de volontaire. » Il y a un présupposé derrière tout ça, c'est que d'après la Guémara, c'est plus grand d'accomplir une action en tant que mitzvah que de l'accomplir en tant que quelque chose de bonne volonté. Gadol a metsuvé verosé, Mimicheno metsuvé verosé. Il y aurait beaucoup de choses à dire pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais le fait est là. Et là, je voudrais à nouveau donner un exemple historique de la chose. Vous savez qu'il y avait un juif d'Anatolie qu'on appelait Paul. Vous avez entendu parler de lui ? Le fondateur du christianisme. Paul de Tarse, qui a fondé le paulinisme, qui est devenu le christianisme. Il y avait tout un débat chez les premiers chrétiens à propos de la loi. La loi, ça veut dire en hébreu les mitzvot. Est-ce que les mitzvot, c'est bien ou c'est pas bien ? Alors finalement, la thèse qu'il a emportée dans le christianisme, c'est que les commandements sont, le mot n'est pas trop fort, les commandements sont une malédiction. C'est décrit en toutes lettres dans les évangiles, la malédiction de la loi. Et pourquoi c'est une malédiction, d'après eux ? Eh bien parce que s'il y a une loi donnée par Dieu, c'est donc que le respect de cette loi, c'est la condition de mon adhésion à Akadosh Baruch Hu. Et si je ne la respecte pas, cette loi, eh bien je suis rejeté. Mais comme je suis un pécheur et que tout homme fait un péché à un moment de sa vie, donc il est inévitable que je sois rejeté par Dieu. Donc la loi est une malédiction. Et c'est pour ça que le christianisme a dit que la loi était abolie et qu'elle est remplacée par la foi. Vous avez compris ça? Bon, c'est complètement inacceptable d'un point de vue juif, ce que je dis là. Nous avons une réponse à ça. La réponse, c'est que c'est vrai qu'on fait des péchés, mais il y a une solution à ça. C'est quoi? La teshuvah. C'est-à-dire, j'ai péché, c'est vrai, c'était pas bien, mais je peux faire teshuvah. C'est-à-dire, le problème du christianisme au départ, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une efficacité réelle à la teshuvah ou pas? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée après ça. Lorsque le fondateur du christianisme a aboli les mitzvot, eh bien, la première communauté chrétienne de la ville d'Antioche a commencé à vivre une vie permissive, de débauche. Alors Paul leur a envoyé une lettre, c'est écrit chez eux. Il dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont répondu, mais c'est toi qui l'as dit. Tout est permis puisque la loi est levée. Réponse de Paul, il dit, non, non, vous n'avez pas compris. Tout est permis, c'est vrai, mais tout n'est pas convenable. Ça veut dire quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Ça veut dire qu'il faut continuer à se comporter selon ces préceptes-là, mais non pas en tant que mitzvah, en tant que she'eno metsuvé verosé. Et la relation à Dieu ne passe pas par ça, elle passe par la foi. Alors, vous comprenez que c'est exactement ce que dit la Guémara. Quand Akadosh Baruch Hu a vu que les nations ne voulaient pas des mitzvot en tant que mitzvot, c'est devenu de la morale universelle. C'est sympathique, la morale universelle. C'est ce qui fait qu'on n'est pas un barbare, qu'on n'est pas un sauvage. Mais c'est seulement ça. Ce n'est pas plus. Et c'est pour ça qu'il y a une attente de passer de l'état de chez Eno Metsuve Verose, de celui qui fait bénévolement, volontairement, à l'état de celui qui accomplit ces actes-là en tant que mitzvah. Et c'est justement ça le noachisme. Le noachisme implique, du point de vue de la halakha, le fait qu'un non-juif demande à faire une déclaration solennelle devant trois rabbins, dans laquelle il fait la déclaration qui dit « J'accepte en tant que mitzvah les sept commandements noachides ». Et c'est là qu'il passe, dans la littérature rabbinique, de la définition du goy, nochri, à la définition du ben noir. Oui ? Alors, est-ce que... Alors, ça, c'est une très bonne question. Je vais tout de suite en parler. Cette question m'a été posée plusieurs fois par des non-juifs. J'ai pu voir souvent des non-juifs d'obédience chrétienne ou autre qui m'ont dit « Mais est-ce que je peux être accepté comme ben noir si je passe devant votre tribunal et rester chrétien ?» Restiez musulmans. Et tant d'autres questions qui ont été posées. Ces questions-là me sont posées au moins une fois par semaine. Et la réponse est très simple. Oui et non. Je vais dire pourquoi. Non, c'est une très bonne réponse, mais je vais dire pourquoi. Il y a un homme politique israélien qui est devenu célèbre parce qu'il avait répondu « Kaen velo ». Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je vois que M. Herzog sait de qui je parle. En tout cas... Pourquoi c'est oui et non ? Pour une raison très simple. C'est qu'il y a, dans la littérature rabbinique, de nombreux débats autour du problème de ce qu'on appelle, par exemple, le chitouf. Le chitouf, ça veut dire l'association. Est-ce qu'un non-juif a le droit d'associer dans son culte, dans le culte qu'il rend à Dieu, un autre être ? Par exemple, pour les chrétiens, c'est très clair. Est-ce qu'ils peuvent associer dans leur prière un homme ? Comme ils le font. Et il y a une controverse très, très profonde là-dessus, entre les poskim, entre le Rambam d'une part et Rabbeinu Tam de l'autre, entre Rabbi Yaakov ben Tzvi Emdin et le Noda Biouda. Ce débat n'est pas tranché jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça d'ailleurs que des chrétiens qui sont bien informés m'ont dit « Oui, mais vous avez le Tosfot dans Maseret Bechorot, Dafbet, Amoudbet qui dit que c'est autorisé, hein ?» Ils me le disent, ils connaissent les sources. Ce n'est pas n'importe qui, ces gens-là. Ils connaissent la Torah, au moins. Eh bien, donc, on pourrait dire qu'à la limite, ça serait un sujet à étudier. C'est ça, pour ça que j'ai dit oui. Mais en vérité, c'est non. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est tout à fait indispensable que le noyau originel du noachisme soit détaché de toute scorie idolâtre. Et c'est ce que j'ai expliqué à des amis chrétiens qui l'ont très bien compris. Et certains d'entre eux ont dit, puisque c'est comme ça, alors je rejette totalement tous les dogmes de la foi chrétienne. Et je vous dis ce que ça en coûte pour un chrétien. Ce n'est pas si simple. Je vais vous dire même plus que ça. J'ai rencontré souvent des non-juifs qui me disent, je n'ai pas eu trop de difficultés à quitter l'Église. Ça existe. D'autres disent, je n'ai pas même eu, ça a été un peu plus difficile, mais j'ai également réussi à me débarrasser des dogmes, l'incarnation, toutes ces choses-là. Mais le pas le plus difficile, c'est la fascination qu'exerce Jésus sur l'égoïsme. La personne, il y a une fascination extrêmement puissante, et c'est le dernier pas à franchir. Et ce n'est pas toujours facile. Je vais vous dire pourquoi. Il y a, et je pense que nous sommes obligés, puisque nous parlons de vérité, de dire la vérité aux gens. Il y a une sorte de terrorisme spirituel qui est exercé sur la conscience des nations, qui consiste à dire « Celui qui va avec moi est sauvé, celui qui ne va pas avec moi va en enfer. » Et ça, ça fait très peur. Et c'est vrai, dans les entretiens que j'ai pu avoir avec même des hommes d'église, je me suis rendu compte que ce qui était diffusé par le fondateur du christianisme, beaucoup plus que de l'amour, c'est de la terreur. C'est ça, il y a peur pour leur âme. Mais en fait, il faut comprendre comment est-ce que, et là je dois faire une petite analyse, comment se fait-il que pendant 2000 ans presque, les nations ont décidé de prendre un juif et d'en faire un dieu ? Et ce n'est pas n'importe qui a fait ça. C'est la partie la plus évoluée de l'humanité. celle où est apparue la philosophie antique. Alors, il faut se demander, comment est-ce que ça a pu naître? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que les nations ont ressenti très tôt l'attraction d'Israël. Et on peut dire ce que souvent les goïms ressentent, et nous, comme nous sommes des juifs, nous avons du mal à comprendre ça. Comment se fait-il qu'on pense de nous tellement de bien? Quand vous savez qu'il y a des goïms qui vous disent « Vous êtes la source de la lumière, nous vous adorons, vous êtes extraordinaire, nous voulons votre bien, nous faisons des prières pour vous. » On se dit « Bon, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas prêt à faire des prières pour les juifs comme eux. D'accord ?» Eh bien, c'est parce que, de l'extérieur, nous apparaissons comme un soleil. De l'intérieur, on n'a qu'à rentrer à la synagogue et puis voir comment ça va entre celui-là et celui-là, sans rentrer dans les détails des problèmes de communauté. On se dit « Là, c'est ça la lumière du monde. » Mais de l'extérieur, ça paraît tout à fait différent. Et donc, il a été facile à un moment de focaliser cette attraction sous forme d'un mythe. Un mythe, c'est focalisé de manière, si vous voulez, païenne, dans une personne. Et on peut dire que l'égoïme n'avait pas le choix. Parce qu'à l'époque où c'est apparu, le peuple d'Israël était au plus bas sur la scène mondiale. Nous étions tout en bas. Nous étions méprisés, nous étions dominés, écrasés par les Romains. Alors, on ne peut pas s'identifier avec quelqu'un qui est dans la persécution. Alors, ils ont remplacé ça par une personne souffrante. Mais depuis 63 ans, il s'est passé quelque chose. Le moribond d'Israël a ressuscité. Nous sommes revenus sur la scène internationale. Nous sommes redevenus Israël. Et donc, nous avons le devoir de dire à nos amis chrétiens, nos amis musulmans, enlevez le masque. Vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire. Vous pouvez passer directement par la lumière d'Israël. Et nombreux sont parmi les nations qui le comprennent et qui l'acceptent. Rien que la semaine dernière, j'étais dans un Beit Din qui a accepté plusieurs noachides, qui sont venus demander à être reconnus comme tels. La semaine prochaine, j'en ai encore d'autres. C'est-à-dire que le phénomène existe. Je dis, par exemple, il y a aujourd'hui aux Philippines, c'est quand même assez loin, hein, il y a une communauté de 400 noachides qui ont fondé 9 synagogues, des synagogues pour non-juifs, pas pour juifs, et qui régulièrement nous envoient des messages pour nous demander comment faire des mariages, comment faire la circoncision, les enterrements, la bar mitzvah. Mais non pas en tant que juif. C'est quoi une bar mitzvah pour un non-juif? Ben, ça voudrait dire la date à laquelle les mitzvot, les 7 commandements noachides, deviennent pour lui engageants. Mais en fait, et là, il faut analyser les textes, si on prend au sérieux les enseignements de Maïmonide, eh bien, on voit que pour Maïmonide, et c'est basé sur les textes de la Guémara, les 7 commandements ne sont pas un maximum, les 7 commandements sont un minimum. Par exemple, vous connaissez cette fameuse expression terrible de la Guémara, qui est qu'un goy qui étudierait la Torah, ou un goy qui respecterait le Shabbat, est coupable de mort. Ça ne veut pas dire qu'on le tue. Rambam dit, on lui fait peur, mais c'est tout. Mais ça, dit Maïmonide, c'est vrai, tant qu'il n'a pas accepté les 7 commandements noachides. Il serait effectivement révoltant de voir que quelqu'un qui n'a pas accepté de ne pas tuer respecte le Shabbat. Il y a un hiatus. Mais une fois que c'est accepté, ça marche. Alors, dit le Rambam, il peut ajouter autant de mitzvot qu'il le désire. Effectivement, ces goyims nous demandent de leur donner des instructions, comment faire leur prière, comment sanctifier leur vie. Le fait est là. J'ai les Philippines, c'est un exemple. Il y a une autre communauté qui est en contact avec nous au Canada. Il y en a en Pologne, en Russie, en France, en Hollande. Je dis simplement ce qui me passe par la tête. Aux États-Unis, évidemment, il y en a beaucoup. Je vais vous dire, même, c'est une anecdote qui est intéressante. Je connais un des Béné Noirs des États-Unis qui est venu à Jérusalem pour faire écrire un Sefer Torah, pour que dans sa maison, il y ait un Sefer Torah, pour que lorsque des Juifs viennent prier chez lui, qu'ils puissent faire un minyan et lire dans la Torah. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, la semaine prochaine, je fais un sacrifice. Et il l'a fait, son sacrifice. Il s'est construit un petit hôtel à côté de Jéricho. Il a abattu deux pigeons qu'il a sacrifiés au Dieu d'Israël. Alors vous allez me dire, mais ça ne va pas à la tête. Pas du tout. Du point de vue de la halakha, il est interdit aujourd'hui de faire des sacrifices en dehors du temple, comme le temple n'est pas construit. Donc c'est interdit. Ça s'appelle Zifre Chutz. Shrute Chutz, c'est interdit. Celui qui fait un sacrifice, même à Dieu, en dehors du temple aujourd'hui, il est Hayav Karet. Mais Maïmonide dit en toutes lettres, à la fin de la partie Maaseh HaKorbanot dans le Mishneh Torah, il dit que si un non-juif veut faire un sacrifice, nous n'avons pas le droit de le faire pour lui, mais nous avons le devoir de lui expliquer comment le faire. Effectivement, il y a cette attente. Alors, je vais vous dire, la télévision israélienne a même filmé ça. Donc, il y a ces choses-là. Je voudrais vous raconter quand même l'histoire d'un Français. Un Français qui est venu me voir, qui m'a dit, un Français de très haute culture, originaire de Bourgogne. La Bourgogne, vous savez où c'est pas loin d'ici. C'est la France profonde. Il me dit, vous savez, j'ai grandi dans le christianisme, mais j'y crois plus. J'ai étudié les spiritualités orientales, et je suis un des plus grands spécialistes en Europe des spiritualités orientales. Mais ça ne me fascine pas du tout. Et je sais qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et dont la parole s'exprime à travers Israël. Et donc je suis venu, monsieur le rabbin, vous demander qu'est-ce que je dois faire pour adhérer à Dieu. Mais surtout, ne me parlez pas des sept commandements noachides, parce que ça, je l'ai fait déjà. D'ailleurs, ses amis le considèrent comme un fou. Entre autres, sa femme, juive, qui se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prend? En tout cas, donc, le phénomène existe et il prend une certaine ampleur. Et là, je voudrais arriver à un point fondamental. Qu'est-ce que, disons, dans l'essence des choses, nous avons à transmettre aux nations? Nous avons à transmettre que le Créateur du monde a une parole, qu'il parle. Et quand il parle, par l'intermédiaire des prophètes, eh bien, il exprime sa volonté et ce qu'il attend des hommes. Il entretient un dialogue. Ce que je dis là, qui peut être banal pour un juif, il sait que Dieu parle, qu'il a des prophètes, qu'il a donné sa Torah, est une chose révolutionnaire dans la conscience des nations. Parce que le contact avec la divinité est compris souvent chez les mystiques comme un contact avec la lumière. Ils ont des visions. Ou bien parfois, une élévation de l'intellect. Ça, c'est les philosophes. Mais le fait que le Créateur se comporte à la manière des hommes, puisqu'il parle, il entretient une intimité de dialogue avec les hommes, eh bien, c'est ça un chidouche. L'innovation d'Israël. Et c'est pour ça que lorsque les prophètes, par exemple le prophète Isaïe, Yeshayahou, quand il nous parle de ce qui se passe à la fin de l'histoire, nous dit comme cela, « Ve'alchou amim rabim, de nombreuses nations iront, ve'ameru, et diront, Kumu ve'na'ale el bet Elohei Yaakov, el har Hashem el bet Elohei Yaakov, levons-nous, allons à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, dans la maison du Dieu de Jacob, veyorenu miderachav, pour qu'il nous enseigne, qu'il nous donne des instructions sur ses chemins, venelcha beorchotav, cheminons dans ses sentiers, kimi tzion tetzetora, car de Tzion sort une Torah, udvar Hashem Yerushalayim, et la parole de Dieu de Jérusalem. Remarquez que ce verset qui est très connu, kimi tzion tetzetora, qu'on chante comme ça, le prophète nous dit que c'est les goyim qui le disent. C'est les goyim qui disent qu'ils mitzionnent, etc., au devoir Hachem Yerushalayim. Et viendra un temps, dit le prophète, où les goyim diront Nelecha imachem, allons avec vous, kishamarnu, Elohim imachem, parce que nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. Cette phrase m'a été dite par un non-juif, un non-juif d'origine allemande, qui aujourd'hui est déjà assez vieux, il a pris de 90 ans, il habite en Israël. Et il me dit, je suis allemand d'origine, je ne veux pas me convertir parce que je sais ce que l'Allemagne a fait à Israël, et donc je ne veux pas admettre qu'un Allemand devienne juif, m'a-t-il dit, mais il a converti ses enfants. Et il m'a dit, il m'arrive de temps en temps d'aller au Kotel, à Jérusalem. Et là-bas, je dis à Dieu, Maître du monde, tu as promis que si un non-juif vient dans ce lieu pour te demander quelque chose, tu feras tout ce qu'il te demandera. Eh bien, je suis venu te demander, Maître du monde, que tu me donnes la force de bénir ton peuple. D'accord ? Vous le connaissez, ce monsieur ? Je vois que vous le connaissez. Et, en tout cas, ça existe, le phénomène existe, et il commence aujourd'hui à se réaliser, et c'est pour ça que nous avons donc des responsabilités à prendre. J'ai commencé à intéresser à ce projet le grand rabbinat d'Israël, qui a des difficultés à avoir l'unanimité autour de cela. Je peux simplement vous dire que nous avons l'encouragement du grand rabbin d'Israël, le Rav Metzger, qui considère cela comme une grande chose. Et nous collaborons à Jérusalem un groupe important de rabbins qui veulent se former à ce dialogue nouveau avec les nations, mais qui commence aujourd'hui et qui devient la réalisation du projet de l'Éternel. Je voudrais encore une petite minute. Voilà, j'ai parlé avec un ton de fin de conférence, mais il me reste quand même une chose que je ne peux pas laisser tomber. Alors ça va prendre encore une minute, c'est tout. Dans le traité de Megillah dans le Talmud, page 6a, les sages nous interprètent un verset des prophètes à propos de Ve'asiroti damav mipi vishikutsav miben shinav. Sans rentrer dans le, je ne vais pas vous traduire le verset, ça serait trop compliqué. La Guémara dit que viendra un temps où les maîtres de Juda enseigneront la Torah dans les théâtres de Rome. Et alors, les commentateurs se demandent que veut dire le mot théâtre. Vous savez qu'un théâtre en français, ça veut dire un théâtre. Mais pour les commentateurs du Talmud, les Tosfot, le mot théâtre ne veut pas dire un théâtre. Il y a là-bas deux opinions différentes, celle de Rashi et Tosfot. Il y a la première opinion, celle de Rashi, qui dit qu'il s'agit des lieux de culte des nations. Ça voudrait donc dire qu'il y aurait comme projet d'Israël de sanctifier, d'orienter les sensibilités religieuses des nations vers le vrai. Et d'après les Tosfos, il s'agit des lieux de gouvernement des nations, ça voudrait dire qu'il y aurait donc un enseignement de culture politique enseigné aux nations. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que viendra un jour, et ça commence, où les nations viendront à Jérusalem pour demander « qu'est-ce que je fais de cette sensibilité religieuse ?» Et chaque nation a une autre sensibilité, chaque civilisation a un autre apport. Et donc il faut être au courant, chez les rabbins, du contenu de civilisation de chaque nation pour savoir comment orienter en bien ces données d'intuition religieuse qui se trouvent chez les nations. Voilà, je vois que vous n'avez pas trop posé de questions, mais comme c'est une fin de conférence et qu'il est d'usage de poser des questions, bien vous allez le faire. Voilà. Et je sais, quelqu'un m'a dit l'autre jour, c'était le rabbin de Lausanne, Rav El-Kaïm, il a dit qu'à la fin d'une conférence, la question la plus difficile à poser, c'est la première, mais après, ça va tout seul.
Ah,
oui.
Oui. Mmh.
Mais bien sûr. C'est-à-dire, nous voyons que, en tout cas, Maïmonide interprète comme ça l'action de Yitzhak. Oui, dans la Torah même, oui, mais Rambam interprète le texte de la Torah en montrant que tous ceux qui s'associaient autour d'Yitzhak et de Yaakov étaient ce genre d'associés, justement, qui voulaient recevoir l'influence de nos ancêtres et qui faisaient partie de leur école. De plus, on voit qu'en sortant d'Égypte, Moshe lui-même a jugé nécessaire d'associer à la sortie d'Égypte une multitude de non-juifs. Alors, ce qu'on appelle le Erev Rav. Alors, je ne dis pas que le Erev n'a pas fait de problème, mais le fait qu'il y ait eu ce mouvement de Moshe est significatif. La Guémara dit Tov aïnou yevorach, celui qui a un bon regard, c'est lui qui est béni. Et c'est quoi celui qui a un bon regard? La Guémara dit c'est Moshe, parce qu'il a amené avec lui le Erevrav. Alors évidemment, quand on amène d'autres, ça fait toujours des problèmes. Mais on n'est pas sur terre pour s'amuser. On est sur terre pour régler des problèmes. Comme disent nos sages, Ahaim lo piknik. La vie n'est pas un pique-nique. Oui. Ah, très belle histoire. Oui, alors je vais vous... Oui, excusez-moi. Oui. Oui.
La première question, c'est par rapport au loi noir.
Oui.
D'interdit.
Bien sûr.
Là, nous avons sous les yeux, vous les avez en tête, nous avons les Asara Dibrot, on en a 7 d'interdit, et on a 3 qui sont positifs.
Oui. Je parle des amulettes, je parle, on peut dire aussi des colifichets, des porte-bonheur, des, je dirais aussi, lors de l'acte en mer, ces espèces de grandes fêtes qui sont proches de la débauche. On peut aussi étendre au Farmingen. Est-ce que nous, à notre niveau, on n'a pas aussi une tendance à l'idolâtrie qui serait bon d'éradiquer? Très bon. Écoutez, je vais essayer de suivre le fil des trois interrogations que vous avez posées. Tout d'abord, vous me souhaitez d'être invité à la cathédrale, je suis très touché de cela. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un rabbin qui collabore avec ce projet, le Rav Richman de Jérusalem, qui a été invité par une communauté chrétienne au Texas à parler dans l'église de ce que pense le judaïsme du christianisme. C'est osé. Il l'a fait, en présence du pasteur local. Et après avoir dit tout ce qu'il a dit, alors la communauté, la paroisse, demande au pasteur, « What do you say about it ? Qu'est-ce que vous en dites ?» Et le pasteur répond, « He is right. » Il a raison. Et le jour même, l'église a été transformée en une communauté noachide. Ça, c'est le premier point. Alors, je ne sais pas si j'ai l'intention, à la cathédrale de Genève, de faire du travail de ce genre. Je ne sais pas si j'en ai les capacités, mais il faut savoir que ce genre de sensibilité existe. Et il serait, disons, à mon avis, immoral de cacher aux nations ce que nous avons à leur dire. Et nous avons quelque chose à leur dire. Vous avez fait une remarque comme quoi le noachisme serait, l'apport d'Israël serait... l'éradication de l'idolâtrie. Absolument pas. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça l'essence du ce message? Non. L'essence du message d'Israël, c'est qu'il y a une volonté du Créateur qui s'exprime par sa parole. Alors, une partie de cette volonté, c'est également de refuser l'idolâtrie. Mais refuser l'idolâtrie en tant que telle, on n'a pas besoin de la Torah pour ça. Il suffit d'être philosophe. Et ça, les philosophes l'ont déjà fait avant nous. Et de plus, votre diatribe contre les phénomènes paléo ou para-paganiques qu'on trouve au sein d'Israël, vous avez tout à fait raison, le Midrash le dit en toutes lettres, que lors du passage de la mer Rouge, un ange, l'ange de l'Égypte, s'est présenté devant le tribunal céleste pour dire « Mais enfin, pourquoi tu vas les sauver ?» Ceux-ci sont des idolâtres et ceux-ci aussi. Donc, personne n'a jamais affirmé qu'il n'y avait pas des idolâtres en Israël. Les prophètes n'arrêtent pas de parler de ça. Et ce n'est pas des phénomènes folkloriques que vous condamnez. Il s'agissait de l'idolâtrie la plus crasse. Il s'agit du Baal, d'Astarté et tout le reste. Et les enfants qui étaient brûlés au molaire. Ça, les prophètes le savaient. Ce n'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, pourquoi aller si loin? Il suffit de lire dans la paracha de Kitissa, le veau d'or. Je crois que ce sont des juifs qui l'ont fait. N'est-ce pas? Je crois. Je crois même d'ailleurs que la théologie chrétienne a été inventée par des juifs. Avec tout ce qu'elle a de paganique. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais le problème n'est pas de savoir qu'est-ce que sont les juifs. Le problème est de savoir qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Et ça, c'est tout à fait différent. Or, l'onde, disons, de choc qui résonne du judaïsme dans la culture universelle, ce n'est pas du paganisme. Je ne crois pas que le paganisme a été appris chez les juifs. D'autres questions? Allez-y. Oui. Écoutez, j'ai des entretiens avec des musulmans. Il y a actuellement une attente qui se trouve latente, entre autres, chez les musulmans de savoir ce que nous avons à leur dire. Et les témoignages que je pourrais donner risquent de mettre en danger de mort ceux dont je témoignerai. D'accord ? Mais il faut savoir que ça existe. Je voudrais peut-être vous donner une anecdote. Comme à propos d'un musulman, puisqu'il est déjà mort, donc il n'y a plus de danger pour lui. Vous savez qu'il y a à Jérusalem ce qu'on appelle Kfar HaShiloach. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Silwan. Alors c'est un lieu extrêmement chaud. Il y a là-bas des maisons qui ont appartenu au début du XXe siècle à des juifs. Et puis ces maisons sont occupées aujourd'hui par des non-juifs. Et il faut faire un travail d'identification, un travail juridique, d'acheter les maisons, c'est pas si simple, il y a une opposition du Hamas, il y a même Al-Qaïda qui est mêlé à ça, mais en tout cas, petit à petit, les Juifs achètent à nouveau les maisons et s'y établissent. Comment est-ce qu'on a pu identifier ces maisons? Eh bien, nous avons été aidés par, tenez-vous bien, le président de la Cour suprême palestinienne, qui, lui, connaissait toutes ces maisons, et c'est lui qui a donné les renseignements. Et quand il a rencontré un des rabbins, il l'a embrassé sur sa tête. Parce que ces choses-là sont... Maintenant, comme il est mort après l'âge de 90 ans, non assassiné, c'est quand même assez extraordinaire, alors on peut en parler. D'accord ? Il y a un problème dans le dialogue judéo-musulman. Je l'ai dit d'ailleurs cette semaine, à Lausanne, à un imam qui est venu me voir. Et je lui ai dit, il y a un problème, c'est qu'il n'y a jamais eu, ou presque, dans la longue histoire des relations entre juifs et musulmans, de dialogue judéo-musulman. Il y a eu un dialogue judéo-chrétien, parfois violent, mais il a existé. Le dialogue judéo-musulman n'existe pas, il y a des raisons très profondes à cela. C'est que un des fondements de la foi islamique, c'est que la Bible est un faux. Qui a été falsifié, c'est-à-dire qu'il y avait une parole originelle qui était pure et qui a été falsifiée par les juifs. C'est écrit en toutes lettres dans le Coran. Nous sommes appelés les falsificateurs. Et donc, le dialogue, s'il s'établit, il est basé sur cette idée que nous sommes des menteurs. Et c'est pour ça qu'il y a tout un problème là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités de rétablir certaines choses. Parce que vous savez que dans le Coran, il est dit en toutes lettres que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Et quand on pose la question à des musulmans croyants, qu'est-ce que vous en dites? Les réponses sont très ambiguës. On peut dire qu'une certaine manière, ils attendent d'Israël d'être Israël. C'est-à-dire, si Israël est véritablement conscient de ce qu'il est, il est immédiatement accepté par la conscience musulmane. Ça ne veut pas dire que ça devient tout de suite du noachisme. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que quelque chose peut se transformer. Je vous donne l'exemple tout simple de l'imam Palati de Rome, qui est pro-israélien, même plus que le gouvernement israélien, puisqu'il encourage les implantations à Chevron et un peu partout. D'accord. Oui. Ouais. Très bonne question. Non. Pour une raison très simple. Vous avez compris sa question ? Il faut que je la répète. La question est, est-ce que l'éclatement de la société israélienne, des juifs, etc., ça ne dilue pas ce message ? Absolument pas. Parce que je reviens tout de suite là-dessus. Il y a une différence entre la manière dont nous sommes vus de l'extérieur et de l'intérieur. Exemple de cela, dans la Torah, vous avez le prophète Bilham, qui lorsqu'il voit les tribus d'Israël dans leur tente, il dit « Matovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Qu'est-ce que ces tentes sont belles !» Quand on sait ce qui se passe là-bas dans les tentes, on voit ça un peu différent. Mais lui, il voit ça autrement. C'est pour ça que le roi David a dit « Beshuv Hashem et Shivat Sion aynu kol cholmim. » Lorsque Dieu ramène les captifs de Sion, nous sommes des rêveurs. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. « Az yomru bagoyim. » C'est alors que chez les nations, on dira. « Igdil Hashem l'asot imele. » Que Dieu a fait de grandes choses avec cela. Alors, que font les Juifs tous les matins? Ils écoutent à la radio, savoir qu'est-ce que les goyim ont dit ce matin. Ils entendent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Igdil Hashem la'asot imele. Dieu a fait de grandes choses avec cela. Ah bon? Alors, c'est certainement vrai, puisque les goyim ont dit, Igdil Hashem la'asot imano. Et Dieu a fait de grandes choses avec nous. Haïnou semechim, nous en sommes joyeux. Et puis, ça arrive que finalement, non seulement les Juifs laïcs le disent, mais même les Juifs religieux sont d'accord, et finalement, même les rabbins. D'accord ? C'est-à-dire, c'est concentrique. Il y a une sorte de dynamique de l'histoire qui agit indépendamment de la petitesse des individus. Vous savez, souvent on se dit, qui sommes-nous qui sommes des tout petits par rapport à nos ancêtres pour faire de grandes choses ? Mais le problème, c'est que les grandes choses, elles ne nous attendent pas. Nous sommes dans une époque de grandeur, de grands événements. Donc, même si nous sommes tout petits, nous devons nous mettre à la hauteur de la grandeur des événements. Eh bien, je tiens à vous remercier de votre attention soutenue et à vous souhaiter une bonne continuation. Nous avons ici un ami, le Rav Efi Choban, qui sera à l'extérieur tout à l'heure lors de la collation, parce que vous savez qu'on va à des conférences surtout pour la collation d'après. Et ceux qui sont intéressés à plus de renseignements, savoir comment, disons, collaborer à cette grande entreprise, sont invités à le rencontrer. Le voilà. Voilà. C'est...